Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Xavier Nopre. Xavier, bonjour.
Bonjour Benoît.
Dans le précédent épisode, on parlait de ton expérience où tu avais en quelques heures implémenté quelque chose, une nouvelle fonctionnalité dans un langage et un framework que tu connaissais finalement assez mal, à savoir Rust. Et on n'avait pas pu aller jusqu'au bout de l'épisode sur comment est-ce que ton expérience en tant que vieux développeur t'avait aidé à bien tirer parti de ce qui existait, d'aller vite. Tu nous as bien parlé des tests, de comment tu les as utilisés comme doc. Mais est-ce que tu avais envie d'approfondir sur la question ?
Oui, effectivement, je trouvais ta question intéressante et c'est un peu la réflexion que je m'étais faite. Donc, on s'est retrouvé lundi matin avec ce challenge du product owner à me proposer d'essayer d'implémenter une fonctionnalité qu'il nous fallait dans une librairie qu'on utilise, mais que je ne connaissais pas plus que ça, et surtout dans un langage, toutes les basses couches sont en Rust, un langage que je ne connais pas du tout, que j'ai un peu aperçu ces derniers temps. Donc, j'ai parlé l'autre fois des tests. Donc, effectivement, quand même, point très positif, il y a toute cette batterie de tests, et donc j'ai commencé par écrire moi un test assez haut niveau dans cette librairie en Rust. Alors ce qui était cool, c'est qu'il y avait des tests déjà existants, donc j'ai repris le test qui était écrit au-dessus, j'ai réécrit le mien, donc je me suis bien inspiré, j'ai pas fait du copier-coller, mais c'était pas loin. Donc ça c'est quand même cool de pouvoir déjà écrire un test, de voir qu'il marche pas, et entre guillemets il n'y a plus qu'à le faire marcher. Et puis ensuite de suivre les différentes couches, d'avoir les réflexes de recherche. Et là, effectivement, alors j'étais surpris parce que je pensais mettre la semaine à faire ça. Et déjà, à la fin de la première journée, j'avais déjà un premier test qui passait. J'avais implémenté vraiment la fonction de crypto, alors que je ne suis pas un spécialiste de crypto. Donc ça, c'était intéressant. Et du coup, la deuxième journée, c'est-à-dire hier, j'ai réussi à remonter dans les couches et à implémenter dans d'autres couches, une couche native, puis la couche remontée jusqu'à Node.js, puisqu'on utilise, nous, le wrapper Node.js. Et là encore, de pouvoir écrire un test unitaire dans le wrapper. Donc, le wrapper, lui aussi, avait des tests unitaires. Donc, là aussi, c'était bien. J'ai trouvé un test qui faisait des tests de crypto proches de ce que je voulais. Donc, j'ai pu en écrire un autre. Et là encore, une fois que le test passait, j'ai pu bondir de joie sur ma chaise puisque je savais que c'était bon, quoi. Donc c'est vrai que les tests unitaires te permettent quand même de valider quand même quelque chose que tu vas faire, on le dit souvent fonctionnellement, mais aussi techniquement sur des langages que tu connais pas ou peu, quoi. Et c'est vrai que pour ça, Rust est quand même assez particulier. Mais comme tu disais, mine de rien, je me suis rendu compte que pour y arriver à faire ça en deux jours, j'ai puisé dans mes vieux souvenirs de C++ qui datent d'il y a pas mal de temps, un peu des notions de compilation native qui datent aussi. Et puis, je suis tombé sur des gestions de monades type les futurs que j'avais vus, qui sont l'équivalent des promesses Node, et j'avais vu les futurs dans ce cas-là. Les options qu'on retrouve, que j'avais découvert dans ce cas-là, qui ont été rajoutées dans Java, qu'on retrouve éventuellement avec des artifices, enfin, on peut faire des optionals en JS en rajoutant ce qu'il faut, c'est pas intuitif, c'est pas intrinsèque au langage. Et puis un peu d'aspect fonctionnel, de programmation fonctionnelle que j'avais vu là aussi un peu en JS et surtout en Scala.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en puisant dans ces expériences passées, tu as retrouvé des concepts qui t'ont permis de facilement prendre en main ce nouveau framework et ce nouveau langage, en fait.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est lié aussi. Enfin, je veux dire, les gens qui ont la fondation Mozilla qui a lancé Rust pour réécrire tout Firefox, tu vois que les gens qui ressortent des nouveaux langages puisent dans les bonnes idées des uns et des autres, quoi. Et ça, c'est quand même cool. Je trouve qu'on est dans une période où il y a des choses sympas qui émergent dans différents langages. Et quand un langage va puiser dans les autres ou un nouveau langage sort en essayant de prendre le meilleur ou les bonnes idées ici et là, c'est quand même chouette. Et c'est vrai que le fait d'avoir touché différents langages, après te permet de monter plus vite en compétences. j'avais évoqué que j'avais regardé Rust entre midi et deux avec un collègue à moi, et c'est un collègue qui a quelques années d'expérience, qui a fait essentiellement du Node.js. Et quand on a regardé un peu Rust, j'ai vu que moi, je lisais un peu les explications qu'on avait sous les yeux. Ok, ça me parlait, j'arrivais à comprendre, etc. Et à un moment, j'ai vu que lui avait plus de peine parce qu'en fait, ne serait-ce que le typage, par exemple, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc, le typage, il ne connaissait pas. À un moment, on a vu que ça parlait de tuple. La notion de tuple, il ne connaissait pas. Donc, c'était cool. C'était l'occasion de lui expliquer la notion de tuple. Moi, les tuples, je les ai découverts quand j'ai fait du Scala. J'ai fait une mission où il y avait du Scala. Donc, et j'ai vu par rapport à ce développeur qui a quelques années d'expérience et donc qui a vu moins de langage, moins de concepts, que du coup, c'était d'autant plus dur pour lui parce que il y a des concepts qui découvrait là, quoi. D'ailleurs, comme moi, le jour où j'ai eu cette mission en Scala, j'ai été un peu à la peine parce qu'il y avait les nouveautés dans le langage et des nouveautés aussi de concepts que j'avais pas encore vus. Mais effectivement, tu les engranges au fil des années d'expérience. Donc c'est là où je te rejoins sur ce que tu disais précédemment, l'intérêt aussi d'un développeur d'élargir son champ de vision. Non seulement pour être compétent sur différents langages, pas forcément expert, mais avoir des notions, et ces notions permettent d'appréhender plus facilement d'autres langages ou de mieux coder même dans son langage de prédilection.
Ouais, moi je vois ça avec plusieurs regards. D'abord un regard sur l'industrie et notamment les process de recrutement où il n'y a pas longtemps j'ai remis un doigt dans le circuit parce que je m'intéressais au Canada, et j'étais curieux de voir ce qu'il était possible de faire. Et dès que je parlais à un recruteur, la première question, c'était « Ok, quels sont vos technos ?» Et je trouvais tellement la question déplacée, en fait. J'avais envie de lui dire « Mais tu sais, j'ai 20 ans d'expérience. J'avais envie de lui dire « Quel techno tu veux ?» quoi. C'est pas, j'avais pas l'impression que c'était un enjeu. Je dis pas que je suis expert tout de suite de n'importe quelle techno, loin de là, il y a encore des concepts qui, tu vois, par exemple la notion fonctionnelle, si jamais un truc qui m'a trop attiré, j'étais un peu traumatisé à l'école d'ingé par le Lisp, mais c'est des choses dont je suis curieux. J'ai eu une grosse première partie de vie les 10 premières années où j'étais dans du compilé, tout petit peu de Java, mais surtout beaucoup de C++, donc des trucs vraiment hardcore, bas niveau où tu gères ta mémoire et compagnie. Ça fait 10 ans que je fais du Rails, donc je suis parti dans un opposé total. Et aujourd'hui, tu vois, c'est très drôle, j'ai envie de revenir à du compilé. J'ai envie de revenir à du compilé et des trucs un petit peu plus bas niveau. En ce moment, je lorgne beaucoup du côté d'iOS, parce que c'est mon téléphone et c'est mon écosystème est très branché Apple. Donc, si j'étais sous Android, je reviendrais sous Android. Et tu vois, il y a des phases comme ça. Je ne sais pas si ça te le fait, mais il y a des... Moi, il y a des phases. Là, en ce moment, j'ai envie de compiler. Tu vois, je sais pas. J'ai envie de refaire du compilé. J'ai envie de retrouver. Ouais, voilà. Ça te parle, ce truc, ou pas?
Alors, moi, non, c'est pas des envies. C'est pas des envies que j'ai particulièrement. Par contre, ce que j'apprécie, c'est deux choses. C'est, tu vois, j'arrive dans cette startup. On a une blockchain et quelque part, on n'a pas le choix. Les basses couches sont en Rust. Soit tu es capable de rentrer dedans, de piocher des idées, voir comme je l'ai fait, de rajouter une fonctionnalité qui te manque, soit tu trouves autre chose et du coup tu dois trouver d'autres blockchains alors que c'est peut-être celle qui correspond à ton besoin. Donc ça je trouve ça intéressant, de cette capacité de pouvoir s'adapter à un environnement. Et puis ce que je vois aussi, c'est aussi d'un moment de pouvoir choisir le meilleur langage par rapport à un besoin. Et ça, je trouve qu'on est dans un écosystème où il faut vraiment cultiver ça.
Mais je sais pas si vraiment on le cultive vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un peu des espèces de trucs universels. Tu vois, le truc très tendance en ce moment, c'est JS et React et tous ses cousins. Et j'ai l'impression que tu vois, il y a un peu ce côté les Seigneurs des Anneaux, un langage et un framework pour les gouverner tous, quoi. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses.
Ah oui, oui, ben complètement. On a des frameworks, on a 3 frameworks pour le front qui se tirent la bourre, mais bon, qui en gros permettent de faire les mêmes choses. Et on oublie complètement que des fois, pour certains besoins, t'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin. Tu peux faire du statique et ça fait bien le boulot. C'est-à-dire qu'on sort l'artillerie lourde pour faire des choses simples. Et tu vois, là, par exemple, je m'intéresse aussi à Go. parce que j'entends dire, et je l'ai un peu vu, et ça semble assez vrai, que bah, par exemple, faire des microservices en Go pour des choses assez simples, c'est super adapté, parce que ça se compile en natif, que tu fais du multi-stage avec Docker, un stage pour builder ton Go, et le résultat, tu le mets dans une image avec basée sur Alpine, et t'as une image Docker hyper light, quoi. Donc, c'est des usages qui sont... C'est des choix techniques. Pour moi, les choix techniques doivent s'adapter au mieux aux besoins. Et plus ton éventail de langage et d'outils est large, et plus tu pourras t'adapter aux différents besoins, quoi. C'est ça que je trouve intéressant.
Eh ben écoute, je suis complètement d'accord et je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où pour voir ce que tu publies?
Eh ben, ils peuvent venir me voir sur mon lieu de travail pour discuter, partager une bière et coder un bout de quelque chose ensemble.
Toi, tu es où? Toi, tu es à Grenoble, hein, c'est ça?
Je suis à Grenoble. Et sinon, bah, tapez mon nom sur un moteur de recherche et puis on trouve mon blog qui est plus trop actif et Twitter et autres, quoi.
Merci d'être venu, Xavier.
Merci à toi, Benoît.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as aimé ce podcast et que si c'est le cas, je t'encourage fortement à mettre une bonne note dans l'outil de podcast que tu utilises. Je ne sais pas si c'est iTunes Podcast, si c'est Google Podcast, Spotify, whatever. S'il te plaît, ça peut être vraiment super parce que ça va donner de la visibilité au podcast et donc aider encore plus de gens à progresser. Je te remercie, je te dis à demain.